Chers parents, garantissez la scolarité de vos enfants, quoi qu'il vous arrive, avec l'assurance éducation. Sounou Assurance, notre métier, l'assurance.
Le magazine que vous allez suivre est une rediffusion.
Priorité santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Lutter contre les inégalités, c'est donc la thématique centrale de ce G7 de Biarritz. Des inégalités qui prennent de multiples visages en fonction de notre lieu de naissance, de notre cadre de vie, de notre niveau d'éducation ou statut social. Des inégalités qui se décident dès la naissance, au moment où l'on annonce aux parents « c'est un garçon » ou « c'est une fille ». Et pour certaines de ces filles qui deviendront femmes, l'inégalité ne s'arrête pas là. En réalité, les inégalités multiples ne font que commencer. Elles vont pour certaines s'inscrire au plus profond de leur chair, lorsqu'au nom de la tradition, de l'entourage, des parents, de la communauté, certaines et certains vont décider de les amputer d'une partie de leur intimité, de les mutiler, en les faisant rejoindre les 130 millions de femmes qui, sur la planète, ont subi l'excision, forme extrême de la discrimination à l'égard des femmes, comme le souligne l'Organisation mondiale de la santé. Elles seraient entre 40 et 60 000 en France, atteintes à vie dans leur féminité, marquées pour brider leur sexualité et restreindre leur épanouissement. La France a engagé un plan d'action pour éradiquer l'excision. Cette lutte s'appuie sur le volet répressif existant. En France, exciser une enfant est un crime passible de 15 à 20 ans de détention. Et ce plan s'appuie aussi sur l'amélioration de la santé des femmes victimes de mutilations sexuelles à travers l'expertise et les efforts des équipes de soignants, comme ici, à la Maison des Femmes de Saint-Denis, où Priorité Santé a choisi aujourd'hui de venir rencontrer ces praticiens, ces médecins, qui travaillent pour la santé et le bien-être de toutes, au féminin et au pluriel. Praticiens et médecins impliqués dans cette prise en charge pluridisciplinaire, femmes vulnérables ou victimes de violences, un espace ouvert sur la rue, coloré, un accueil confidentiel et sécurisé, un travail concerté avec le monde associatif. Avec nous donc aujourd'hui dans Priorité Santé, une partie de l'équipe de cette maison des femmes, Dr Rada Atem, bonjour.
Bonjour Caroline.
Vous êtes gynécologue obstétricienne, médecin-chef ici, à la Maison des Femmes de Saint-Denis. Mathilde Delépine, bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes sage-femme à la Maison des Femmes, coordinatrice pour l'unité de soins dédiée aux femmes victimes de violences. Et je vais reprononcer correctement votre nom, c'est bien Delépine. Également avec nous, Sandrine Edwards, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue dans le service de gynécologie et docteur Stéphane Bounan, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chef de service de gynécologie et obstétrique à l'hôpital de La Fontaine. C'est juste à côté, hein, ça jouxte cette maison des femmes. Et puis on va donner tout à l'heure la parole à une jeune femme. Elle est guinéenne, elle a tout juste 20 ans, Adja Idrissaba. Nous l'avons rencontrée lors d'une visite à Paris. Adja Idrissaba, présidente du Parlement des enfants, présidente fondatrice du club des jeunes filles leader en Guinée-Conakry. Elle milite au quotidien pour les droits des femmes et des jeunes filles et elle est aussi étudiante.
Priorité santé sur RFI.
Alors ce sommet de Biarritz s'est donc fixé comme thème central la lutte contre les inégalités, ce qui nous a conduit jusqu'ici. Votre action, votre accompagnement des femmes victimes de mutilations sexuelles est d'ailleurs cité dans le plan d'action visant à éradiquer l'excision, avec en termes de santé, de droit à la santé au féminin, une approche plurielle. C'est vraiment la base de votre travail ici, une prise en charge qui, docteur Rada Atem, ne se limite donc pas à la prévention, ni même simplement à la réparation de l'excision. Le mot qu'on voit, qu'on comprend, c'est global.
Oui, global, car nous sommes multiples. Nous sommes chirurgiens, nous sommes sages-femmes, nous sommes psychologues, sexologues, nous sommes animateurs d'ateliers. Et tous nos efforts, en fait, convergent vers deux points. Le premier, c'est que le parcours de ces femmes soit le plus adapté possible à leurs besoins. Le deuxième, c'est aussi les encourager vers l'autonomie et quelque chose qui n'est pas forcément directement en lien avec l'excision. Mais ces femmes sont victimes d'un continuum de violence. Elles ont très rarement eu le droit à la parole. Et participer ici à des groupes de parole, bénéficier d'ateliers d'amélioration de l'estime de soi, change leur regard sur le monde. Et derrière le projet pour elles, c'est qu'elles deviennent nos relais, parce qu'elles sont bien plus que nous légitimes dans cette lutte.
et aller dans la communauté pour faire venir aussi d'autres femmes et étendre votre champ d'action. Est-ce que vous avez des chiffres, docteur Ada Hatem, sur la proportion de femmes prises en charge dans votre structure directement concernée par l'excision? En fait, par rapport aux femmes qui sont prises en charge à l'hôpital voisin, quelle part de femmes est directement concernée?
C'est difficile de répondre à votre question parce que les femmes qui viennent peuvent cumuler les handicaps. Elles peuvent avoir été violées, victimes de violences conjugales, excisées et en demande d'IVG par exemple. Donc c'est difficile de les comptabiliser. Nous sommes très sollicités pour des certificats dans le cadre de demandes d'asile. C'est une de nos grosses activités aussi.
Alors Mathilde Lespine, on a compris des femmes qui vont pas forcément aller parler facilement. Alors on peut se demander comment est-ce qu'elles arrivent jusqu'à vous?
Alors, bien souvent, elles sont orientées par des professionnels qui sont partenaires de la structure. Parfois, en effet, ce sont d'autres femmes qui les ont accompagnées, qu'elles ont rencontrées dans un accueil de jour, là où elles sont hébergées ou voilà qu'elles connaissent. D'ailleurs, parfois, elles ne sont pas issues de la même communauté au départ et elles se disent aujourd'hui, c'est comme ma petite sœur, je prends soin d'elle. Donc, on voit bien que les liens de solidarité peuvent vraiment entraîner un mieux-être et que ça dépasse la culture d'origine ou la région du monde d'origine. Et puis, parfois, certaines viennent parce qu'elles ont tapé sur Internet et qu'elles ont trouvé la structure. Ouais, voilà, c'est les trois principaux canaux d'orientation.
Mais est-ce qu'il y a un moment particulier dans leur vie de femme où elles vont être amenées à demander vos services?
Alors, il y a la période de grossesse qui peut être vraiment le lieu où elles vont être... on va leur dire qu'elles ont été excisées et que d'ailleurs, il existe un service spécialisé pour les prendre en charge. Pareil pour les femmes qui sont victimes d'autres formes de violences que les mutilations. Ça peut être aussi cette période où elles vont dire « ce que j'acceptais avant, je ne l'accepte plus ». Ou alors des moments déclic. Il y a des femmes victimes de violences conjugales qui, hier soir, se sont vues cracher dessus. Et ça, elles ne l'acceptent pas, alors que c'est vrai que ça fait des mois qu'elles subissent des violences qu'on pourrait qualifiée de torture conjugale, mais elle ne se sentait pas prête. Donc voilà, il va y avoir des déclics, l'impact sur un enfant, voir une émission à la télé ou entendre une émission à la radio, enfin se voir dans le regard d'une autre femme et dire si elle se bat, moi je peux peut-être y arriver aussi.
Et dans le cadre de cette maison des femmes, il y a l'option donc de la chirurgie réparatrice, c'est possible, mais vous insistez sur ce fait, docteur Stéphane Bounon, c'est possible, mais ce n'est pas simplement ça.
Ce n'est pas simplement ça, parce que en tant que chirurgien, réaliser l'intervention, c'est quelque chose qu'on maîtrise, et techniquement parlant, ça serait faisable chez la quasi-totalité des patientes qui ont subi une mutilation sexuelle. Mais toute la difficulté de la prise en charge de ces patientes, c'est de déterminer celles qui ont intérêt à bénéficier de la chirurgie. Parce que la chirurgie ne peut pas répondre à tous les problèmes. Il y a des cas où c'est simple, quand par exemple une patiente est épanouie, que elle n'a pas de problème, on va dire, d'ordre psychologique au premier plan, qu'elle est bien dans sa peau, mais qu'elle va vous décrire, par exemple, des douleurs sexuelles pendant les rapports, qui lui gâchent sa vie. Et à l'examen clinique, on va voir que la lésion qui crée sa douleur, elle est facilement opérable. Là, c'est assez simple de lui dire, madame, j'ai une intervention pour vous qui peut répondre à votre besoin. En revanche, une patiente qui vient par exemple dans une plainte, par exemple pour une dysfonction sexuelle, ça devient beaucoup plus complexe. Car quelle est la part de la dysfonction sexuelle liée à la mutilation? Évidemment qu'il y en a une, on sait que l'impact désastreux de la mutilation sur la vie sexuelle de ces femmes. Mais peut-être qu'il y a à côté d'autres événements de sa vie qui ont conduit à ce que maintenant ça ne fonctionne pas. Donc à ce moment-là, la chirurgie seule ne va pas pouvoir faire que sa vie sexuelle va être vraiment optimisée. Elle va avoir besoin d'un soutien psychologique, elle va avoir besoin d'un soutien sexologique, et dans lequel peut-être à un moment donné, la chirurgie va s'inscrire, mais parfois dans un second temps. Une patiente qui aurait par exemple subi des agressions sexuelles répétées, ces événements en soi suffisent à expliquer, et je crois que tout le monde le comprend, que sa vie sexuelle s'en retrouve très fortement modifiée, même si maintenant elle est avec un partenaire qu'elle aime. Et c'est vrai que la mutilation ne fait que rajouter du malheur et d'un mauvais, on va dire, un mauvais vécu de sa vie sexuelle actuelle. Mais pour ces femmes-là, on imagine qu'une prise en charge psychologique, parfois même vraiment spécifique de la prise en charge d'un psychotraumatisme, une fois que ce problème sera déjà traité et qu'elle aura évolué et qu'elle se sera reconstruite à ce niveau, la chirurgie arrivera dans un second temps comme une, on va dire, la finalisation de son projet pour l'aider. Alors que si on la faisait dans un premier temps, ça pourrait être même vécu comme une étape, une épreuve supplémentaire sur son corps. Donc ça serait inapproprié à ce moment de la prise en charge.
C'est pour ça qu'il y a cette dimension véritablement, docteur Ada Hatem, de parcours de soins en fonction des besoins. Il y a les attentes, mais il y a aussi ce que la femme est capable d'entendre et de partager et de subir dans sa chair.
Mais il y a surtout notre travail qui consiste à lui expliquer, parce que elle arrive très souvent en disant « je veux me faire opérer ». Et pour elle, c'est le sésame, tout ira mieux après, même si elle est avec un homme qu'elle n'aime pas, sa vie va changer. Et notre travail consiste à décrypter avec elle les éléments de sa vie pour lui dire bah, « vous voyez bien qu'avec ou sans clitoris, ça ne va rien changer si on ne fait pas en amont tout le travail nécessaire ».
C'est une question d'intégrité. Retrouver toute sa personnalité. Est-ce que on peut décrire le type de mutilation? C'est toujours compliqué, même y compris les auditeurs n'ont pas toujours envie d'entendre ça, mais malgré tout, en parler, c'est aussi faire comprendre ce qui se passe. On sait que le type de mutilation peut aussi dépendre de la communauté de laquelle on est issu. Ici, à la Maison des Femmes, docteur Stéphane Bounon, quel type de mutilation ont subi les femmes avec lesquelles donc vous travaillez sur ce parcours personnel et parfois en chirurgie?
Parmi les femmes qui accouchent à la maternité, on avait calculé que 14% des patientes qui accouchaient à Saint-Denis étaient victimes d'une mutilation sexuelle, et on avait 88% de type 2. Pourquoi ? Parce que le bassin de population fait que les patientes sont originaires du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, et on sait que dans cette zone géographique, le type 2 est prépondérant. Les types 3, c'est plutôt l'Afrique de l'Est, voilà, avec la Somalie, le Soudan, et on a relativement peu de patientes originaires de cette région, ce qui explique la répartition que l'on observe dans nos services.
Alors après ce premier tour de table, je vous propose d'écouter tout de suite un témoignage. On va donner la parole à une jeune femme qui a donné aujourd'hui un visage en Afrique de l'Ouest à la lutte pour les droits des filles. Son combat, en finir avec les mariages forcés, elle aussi, elle a une approche globale. En finir avec les mariages forcés, les mariages d'enfants et les mutilations sexuelles féminines. Féministe, porte-parole, militante, incarnation de la lutte pour le droit des femmes après avoir défendu la cause des plus jeunes au Parlement des enfants guinéens. Adja Idrissaba, bonjour.
Bonjour.
Nous avons enregistré cet entretien. Vous êtes étudiante et fondatrice du Club des jeunes filles leaders de Guinée, une association que vous présidez aujourd'hui. Alors vous avez ces dernières années donné un visage à une jeunesse africaine qui se bat pour le droit des femmes, ces jeunes filles qui n'hésitent pas à descendre dans la rue et à crier lorsqu'elles sont en colère, et en particulier contre des usages, des pratiques qui menacent l'intégrité physique et mentale, comme le mariage des enfants, comme l'excision. Alors ce G7 Biarritz a été placé sous le signe de l'égalité homme-femme. Pour vous, Adja Idrissaba, qu'est-ce que ça veut dire ?
Pour nous, lorsqu'on voit que les plus grands pays du monde entier consacrent le sujet du débat sur l'égalité entre les hommes et les femmes, cela nous réconforte davantage. Je pense qu'il y a des recommandations qui seront faites de la part des associations féministes que nous sommes.
Ce discours que vous portez, on parle à Biarritz de l'égalité homme-femme. On y croit vraiment à cette égalité lorsqu'on a tout juste 20 ans et qu'on est guinéenne, quand on voit tout le chemin qu'il y a à parcourir?
Eh bien oui, c'est possible que nous parlions de l'égalité dans nos pays aussi, malgré toutes les difficultés, tous les obstacles que nous rencontrons. Moi, je pense que c'est déjà un début de la promotion de l'égalité entre l'homme et la femme. L'homme, il a le droit vraiment de maintenir son corps comme il est et de ressentir tout ce qu'il a à ressentir, mais par contre, la femme, on le retire ce droit. Donc, à ce niveau que nous sommes en train de lutter pour l'abandon des mutilations génitales féminines, le jour que nous réussirons cela, on aura vraiment réussi au moins à faire un premier pas pour l'égalité entre l'homme et les femmes. Le mariage d'enfants et le mariage forcé, c'est souvent chez les jeunes filles, et à force de mener un combat jusqu'à ce que la fille puisse avoir son avis et son opinion à donner sur sa relation amoureuse qu'elle aura avec son futur mari, là, à ce moment, on dira vraiment qu'il y a une égalité qui est en train d'être promue.
Adja Idrissaba, ce discours que vous portez, comment est-ce qu'on vous regarde quand vous dites ça? On vous dit... Finalement, une fille de 20 ans vient remuer le pays, vient rappeler aux adultes, vient rappeler aux leaders communautaires quelle est la loi.
nous, avec notre jeune âge et avec tout cet engagement et cette énergie que nous sommes en train de fournir dans le pays, il y a beaucoup de personnes qui apprécient, certes, le combat, mais d'autres se sentent menacées, leur intérêt menacé.
Est-ce que vous avez été personnellement menacée à cause de ce que vous faites?
Absolument, nous sommes menacés. Je vous invite à y aller sur les réseaux sociaux, les commentaires des gens. Mais je le dis haut et fort, personne ne me dictera ce que j'ai à dire, ce que j'ai vécu. J'ai été victime de cette pratique et je le dirais que c'est pas bien pour la santé des jeunes filles et surtout pour son émancipation.
Justement, vous êtes concernée dans votre chair, Adja Idriss Aba. Parler de cette excision, votre excision, vous en êtes capable depuis quand? Vous pouvez en parler comment? Sans vous demander votre avis, on a décidé ce qui était bon pour vous et en tout cas ce qui était bon pour l'homme qui demain vous rencontrera, on a décidé à votre place.
Je dirais que quand j'avais 8 ans, on a profité vraiment de mon innocence. Ma mère, en complicité avec quelques femmes de ma famille, elles m'ont prise pour m'amener chez ma tante pour vraiment faire cela. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je saignais un peu et ils ont déchiré des habits pour vraiment attacher au niveau de mon appareil génital pour vraiment bloquer la sortie du sang. Et ça, vraiment, ça crée des infections, on le sait. Donc,
est-ce que vous êtes, par exemple, là, on est dans une émission médicale, je vous pose la question simplement. Est-ce que vous êtes allé voir un gynécologue pour lui montrer votre organisme, votre corps, pour qu'il essaye de vous expliquer et aussi peut-être faire de la prévention pour dire voilà ce qui pourrait être bon pour vous demain?
Ça, je n'oserais pas parce que je suis vraiment traumatisée.
Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez le courage d'aller dans la rue, mais encore, ça fait tellement mal qu'on n'a pas le courage d'aller demander à quelqu'un de nous regarder.
Oui, absolument, parce que vous savez, c'est très traumatisant. À force même de parler de l'excision, tu penses toujours à ton passé, mais encore de repartir, se faire regarder par un médecin, franchement,
c'est difficile. Parce que justement, il faut bien comprendre, si les gens vous entendent avec toute votre fougue, tout votre courage quand vous parlez, ça n'enlève pas la douleur, ça n'enlève pas la souffrance. Je dis ça parce qu'il y a tous ceux qui nous écoutent et qui disent « Adja Idriss Aba, elle est sur RFI, elle est en train de parler, comme ça, donner la leçon, etc. » Non, c'est quelque chose que vous avez vécu et vous dites votre maman... Elle vous a mis entre les mains de ces personnes qui vous ont fait ça. Est-ce que vous avez arrêté votre maman à un moment donné dans une discussion, la regarder les yeux dans les yeux en lui disant « Pourquoi ? Pourquoi maman ? Pourquoi tu m'as fait ça ?»
Très bien. Je pense qu'une semaine même avant que je ne sois avec vous, j'étais avec mon père et puis on était en train de discuter, échanger sur cette question-là. Et bon, je dis, on partait dans la famille où il m'avait envoyé quand j'étais jeune, parce que quand on t'excise sur l'espace chez toi, on t'amène dans une autre famille. J'ai dit, papa, c'est ici que vous m'aviez envoyé. Et donc, directement, il me fait 5 minutes de silence. Il dit, franchement, c'est pas moi. C'est sont tes mamans. C'est elles qui ont fait ça tout derrière. Moi, je savais pas. C'est seulement ce jour, il a parlé, j'étais comme ça, j'ouvre les yeux, même ma mère, je l'ai vraiment dit, mes amis savent que j'ai des petites sœurs ici, donc elles sont sous la protection du club des jeunes filles, je pense pas qu'elle osera. Dans ma propre famille, il faut vraiment qu'il y ait l'exemple et montrer l'exemple pour les autres.
Quand on vous dit que vous êtes une menace pour la tradition, qu'est-ce que vous répondez?
Je dirais que je suis plutôt une opportunité pour la tradition. Pour moi, la tradition, c'est toutes les valeurs positives. Donc, la valeur positive, chez moi, il faut la préserver. Mais tout ce qui nuit à notre santé, je ne considère pas cela comme une tradition.
Vous êtes étudiante, hein, vous avez fait de la science politique. Maintenant, vous vous orientez vers le droit. Adja Idriss Aba, demain, vous voulez être quoi? Vous voulez vous marier? Vous voulez travailler? Vous voulez avoir des enfants? C'est quoi votre futur?
A priori, je vais d'abord étudier. Moi, mon premier mari sera vraiment mon diplôme. Et donc, du coup, après mes études, c'est normal, il faudrait que je commence à travailler, être avocat défenseur des droits des femmes, bien sûr. Et puis après, je compte fonder mon foyer, j'aurai un mari, si Dieu le veut bien, et puis j'aurai mes enfants, ma petite famille protégée, qui ne sera jamais victime de toutes ces violences et de ces atrocités. Et voilà, c'est un
beaucoup d'énergie pour beaucoup de douceur, on en a besoin. Merci beaucoup, Adja Idriss Aba. Je rappelle que vous êtes fondatrice du Club des jeunes fille leader de Guinée et étudiante en droit.
Merci beaucoup.
Merci. Priorité santé, de retour à la Maison des Femmes de Saint-Denis, avec nous gynécologue, obstétricien, sage-femme et psychologue, équipe pluridisciplinaire qui prend en charge les femmes vulnérables et victimes de violences. Ce témoignage d'Adja Idriss Aba, guinéenne, militante, peut-être un petit tour pour réagir. Mathilde Delespine, elle dit « Demain, je voudrais des enfants, vous êtes sage-femme », mais en même temps, aujourd'hui, elle se bat, elle y croit, et puis beaucoup de pudeur.
Bien, c'est ce que vous lui avez fait dire, c'est que quand il s'agit de son corps, de l'attaque qu'elle a subie dans son intégrité, là c'est très compliqué, il y a encore de la honte et donc de la difficulté à se dévoiler. Et on imagine bien que si on lui proposait une opération demain, ça serait impossible à penser. Par contre, un parcours individualisé où elle pourrait prendre le temps de prendre la parole, d'être écoutée, d'avoir des conseils. Là, ça semblerait possible. Ce sont des femmes qui disent me regarder dans un miroir, regarder mes organes génitaux externes, c'est impossible. Ça fait trop mal rien que de faire ça. Et pour avoir des enfants, le jour où elle se sentira prête, elle pourra avoir des enfants sans difficulté du moment qu'elle bénéficie de soins obstétricaux suffisants. On sait que même quand on est excisé, on peut avoir un accouchement physiologique si on a des professionnels de santé suffisamment formée en face de nous, donc ce n'est pas évidemment une contre-indication à devenir mère quand elle aura envie.
Docteur Rada Hatem, sur les groupes de parole, justement, du silence, du secret à dévoiler ces choses, comment ça se passe ?
Ça se passe incroyablement. En fait, j'anime ces groupes avec un médecin anthropologue, le docteur Eppelboin, qui connaît très bien l'Afrique subsaharienne et qui me sert de décodeur parce que moi, je n'y ai jamais mis les pieds. Et très très vite, les femmes sont tellement en confiance qu'en fait, on n'a presque plus besoin d'animer. Elles s'emparent du sujet, elles se mettent à parler en bambara, en soninké, je ne comprends rien. Et elles, petit à petit, elles s'encouragent. Et à la fin, ça se termine très souvent par « je veux m'engager ». Je veux aider les autres femmes, je veux qu'on reprenne le contrôle. Et il n'y a aucun tabou, elles racontent vraiment tout ce qu'elles vivent. Alors, parfois pas la première fois, certaines viennent une fois, deux fois, elles écoutent, et la troisième fois, elles prennent la parole, encouragées par l'exemple des autres. Et puis, de temps en temps, il y a des femmes qui ont été déjà opérées, par exemple, qui viennent et qui disent, voilà, j'étais comme toi, j'avais peur, je voulais pas me faire opérer, regarde comme je vais bien, regarde comme je suis fière. Et tout ce travail qu'elles font entre elles, en fait, nous, on sert juste de facilitateur, a un impact incroyable.
Sandrine Edwards, tout à l'heure, on a entendu parler du père, de la mère. Quand on va justement avancer sur son propre parcours, sur son propre chemin, est-ce qu'à un moment donné, on va changer de regard sur sa propre famille par rapport à sa responsabilité dans ce qui nous a été fait ?
Alors, ce qui est très compliqué, c'est que souvent, elles n'en parlent pas. À leur mère, à leur père, c'est le sujet tabou par excellence. Et c'est presque l'essentiel. Enfin, j'en ai quelques-unes qui ont osé aborder ce sujet avec leur mère. Autrement, pour la plupart, elles nous disent « mais jamais ». Et je lui dirais même pas que je me suis fait opérer. Je ne sais pas comment elle pourrait le prendre. Je ne sais pas si je pourrais pas me faire rejeter. Donc ça, c'est une question qui ne se parle pas. Ça se parle entre cousines, entre sœurs. Mais avec la mère, c'est très très difficile.
Alors, le tabou quand il y a eu opération après, mais le tabou aussi avant. Est-ce que les femmes qui viennent en consultation, docteur Stéphane Bounon, elles arrivent à décrire ce qu'on leur a fait et ce qui leur manque ?
Alors, ça dépend. Toutes les patientes n'ont pas le même niveau de connaissance en ce qui concerne leur mutilation. Il y a certaines patientes qui sont tellement, on va dire, envahies par le traumatisme, qui vont faire un blackout totalement sur cette zone. En disant c'est détruit quoi, c'est détruit et à la limite dans leur elles ne voient pas vraiment l'intérêt de comprendre les choses. Parfois à tort, c'est-à-dire qu'elles pensent que leur corps est détruit alors que quand on les examine vraiment, on se rend compte que la lésion qu'elles croyaient terrible qu'elle avait, en fait parfois même il y en a pas. Hein, notamment il y a certaines patientes qui pensent avoir été excisées et que à l'examen on va décrire un corps qui est normal.
Et après, voilà. L'explication, elle vient comment ? Elle vient après une consultation en psychologie ou plusieurs, j'imagine, un cheminement en psychologie. Comment ça se passe ? Parce que comment est-ce qu'on peut expliquer d'être porteuse de tant de souffrances alors que, je vais pas dire que le corps n'a rien subi parce que c'est pas du tout ça, mais qu'est-ce qui s'est passé ?
Parce que on parle là de représentation de leur propre corps. Et tout est dans cette dualité, c'est qu'il y a une lésion physique qui crée des problèmes qu'on connaît bien et qui sont, on va dire, palpables, identifiables. Hein, le fait que le bout du clitoris ait été coupé, le fait qu'il y ait une cicatrice qui est épaisse, le fait qu'il y ait de la fibrose, le fait que la stimulation clitoridienne est très difficile parce qu'on comprend aisément que c'est difficile d'y accéder du fait qu'il est totalement enfoui, enfin ce qui reste de leur clitoris est enfoui dans leur corps. Ça, c'est des choses, on va dire, tangibles, objectives. Mais ça serait trop simple s'il n'y avait que ça. il y a aussi la représentation qu'elles ont de leur corps. Et cette représentation, elle est modelée par les souvenirs de l'excision, par le symbole de l'excision, mais aussi par toutes les offenses que leur corps a subies, que ça soit par des violences dans l'enfance, que ça soit par des agressions sexuelles, par des viols, par un mariage forcé. Toutes ces choses vont s'inscrire dans une cristallisation de tout le malheur autour de leur sexe.
Parce que finalement, docteur Khatahatem, ce n'est pas en fonction de la taille des lésions que l'on souffre, mais c'est de tout ce parcours, tout ce bagage, on va dire même ce fardeau féminin qui est arrivé dès les premières années, 6, 7, 10 ans, ça commence très très tôt.
Le fardeau féminin se rajoute, mais les patientes qui ont des lésions minuscules sont des patientes qui ont parfois subi ou bénéficié, c'est comme on voudra, de simulacres d'excision. On a remplacé dans certains pays, parce que on commence à diffuser l'idée que quand même c'est pas une très bonne tradition, comme le dirait notre amie guinéenne, on a coupé, piqué, pincé, mais pour la petite fille, il n'y a pas de différence coupée, piquée, pincée. Je suis excisée. Et donc, dans ma tête, je suis excisée. On pourrait même dire que c'est une excision mentale. Et après, c'est très compliqué. Il faut arriver à leur expliquer que leur sexe est pratiquement intact, qu'en tant que chirurgien, on ne fera pas mieux et que la chirurgie n'est pas la bonne réponse. Par contre, il faut prendre en charge le traumatisme.
Docteur Stéphane Boudin, voulait réagir.
Oui, c'est qu'il y a aussi en ce qui concerne leurs plaintes par rapport à leur vie sexuelle vis-à-vis de leur mutilation, il y a une représentation aussi du plaisir qui est fausse. C'est-à-dire que certaines de ces patientes voient la sexualité comme quelque chose de très mécanique. C'est-à-dire, soit il y a un clitoris et donc il y a du plaisir, soit il n'y a pas de clitoris et donc il n'y a pas de plaisir. Donc à partir du moment où elles ont enregistré le fait qu'il leur manque quelque chose, elles vont complètement mettre de côté la recherche du plaisir en disant « de toute façon mon corps est abîmé ». Donc on n'est pas dans la recherche de la compréhension du phénomène et de la lésion, c'est que c'est une globalité en fait.
Oui, docteur Khatahatem.
Je rajouterai une dernière chose, c'est que ces femmes ne connaissent que d'une sexualité violente en général, et très rarement consentie. Donc c'est quand même un grand mélange. On a agressé mon corps et on m'a toujours violée. Donc ça peut pas coller avec le mot plaisir, c'est impossible.
Mathilde Delespine, quand on est sage-femme et quand on en vient à accoucher, à s'occuper de femmes qui ont subi des pareilles choses, vous êtes jeune, dans votre formation, comment est-ce que ça s'est passé cette rencontre? Parce que quand même, il y a des fois quand on ne connaît pas bien ces communautés, on doit tomber de haut, je le dis parce que c'est une réalité. Travailler avec des femmes qui ont subi ça tous les jours, ça doit complètement changer les repères de santé, les repères, on a parlé d'épanouissement, de consentement. C'est quelque chose auquel beaucoup de femmes pensent avoir droit en naissant dans beaucoup d'endroits du monde. Et là, pas du tout. Mais pas du tout, du tout.
Ma première rencontre avec une femme excisée, on avait déjà bénéficié de formation à l'école de sage-femme, donc on a eu beaucoup de chance. C'est pas forcément le cas dans toutes les écoles de sage-femme, même si maintenant ça devient généralisé. Et puis, en faisant ses études en Île-de-France, c'est assez vite. Effectivement, c'est des femmes, en tout cas quand elles sont pas nées en France, à qui on a besoin d'apprendre que le consentement leur est acquis aussi. Donc, avant de leur toucher leur corps, est-ce que je peux vous toucher le ventre? Souvent, on nous dit, oui. Vous êtes là pour ça. Et donc, on leur répond très tranquillement. Vous savez, c'est votre corps, c'est normal que je vous demande l'autorisation. Et là, on est dans ce que Sandrine disait tout à l'heure. On leur fait vivre une expérience de sécurité, de respect de leur corps. Et donc, ça peut les réhabituer ou les habituer tout court si elles n'ont pas eu cette habitude. Et puis après, ça change les représentations. Ce sont des jeunes mères qui ont besoin d'avoir des conseils sur leur enfant, qui ont peur parfois que leur enfant soit excisé. Donc, comme pour toutes les jeunes mères, elles ont besoin d'avoir des conseils très pratiques pratique pour comment faire pour être la mère la meilleure possible. Et donc ça peut être leur donner des stratégies pour que leur bébé soit protégé, d'aller régulièrement à la PMI, d'avoir des courriers si jamais elles doivent faire un voyage au pays pour protéger leur enfant. Enfin voilà, ça fait partie de l'exercice des sages-femmes, des médecins, des psychologues, des maternités.
Sandrine Edwards, on imagine que chaque cheminement est particulier. Est-ce que malgré tout vous remarquez que les femmes qui ont subi l'excision racontent leur histoire d'une certaine manière, en occultant au début certains moments qui reviennent après? Est-ce qu'il y a une chronologie dans le récit de ce qui s'est passé ou finalement ça dépend de chacune?
Je pense que ça dépend de chacune. Le traumatisme peut soit bloquer la parole ou au contraire faire qu'elle est complètement logorrhéique On a des patientes qui nous racontent dans le détail comment les femmes l'ont attrapé, comment elles ont coupé, comment ça s'est passé après. Je me souviens d'une patiente qu'on a eue avec le docteur Bounan, où parce qu'elle avait vu le film « Fleurs du désert », ça lui était revenu ce qu'elle avait pu vivre étant petite. Et elle avait complètement occulté. Donc c'est vraiment, c'est propre à chacune.
Est-ce que vous diriez pour beaucoup de ces femmes qu'elles souffrent de choc post-traumatique ? Est-ce que c'est le type de récit ou le type de symptômes qu'elles manifestent, ça s'apparente à ce choc ?
C'est quand même un terme médical. Donc toutes n'ont pas un choc post-traumatique. Par contre, toutes sont vraiment traumatisées et bloquées dans leur sexualité, en tout cas celles qu'on rencontre, par rapport à cet acte-là, où elles se sentent honteuses, manquantes, et puis parfois elles ont des conjoints qui le pointent clairement. T'es handicapée, tu ressens pas, t'es mutilée, t'es une sous-femme. Donc elles arrivent des fois aussi avec la maison des femmes, avec une représentation très abîmée de leur corps.
Et est-ce qu'elles vous disent, ces femmes, finalement, Sandrine Edwards, que ces hommes voulaient une femme excisée, malgré tout, et après leur reproche, justement, leur incapacité, avec des guillemets, d'accéder au plaisir ?
Alors tout dépend si elles sont nées en France ou pas, puisque une femme qui a fui son pays, la norme des femmes qu'on rencontre, hein, qui viennent d'Afrique subsaharienne, elles doivent être excisées, parce qu'autrement on n'en veut pas. Elles doivent être propres, et on les élève pour être des bonnes épouses, modèles, elles doivent être là pour l'homme. Donc quand elles arrivent ici en France, il y a un choc des cultures et tout se complexifie.
Mathilde Delespine.
D'ailleurs, parfois dans les groupes de parole, elles disent « Moi, ce que je voudrais, c'est avoir une sexualité à 100% et là, je pense que j'ai une sexualité à 50%. » Et alors, qu'est-ce que c'est une sexualité à 100% pour vous ? Bah, c'est une sexualité d'une femme blanche, enfin en tout cas d'une femme qui a son clitoris entier, et elle s'imagine peut-être que certaines femmes ont des orgasmes
automatiques.
Voilà, à chaque fois qu'elles ont un rapport sexuel, etc. Donc, il y a aussi beaucoup de ça, de déconstruction. Et comme d'ailleurs pour beaucoup d'autres femmes, on commence souvent les consultations en prenant une planche d'anatomie et en regardant comment est un périnée d'une femme qui n'est pas excisée, etc. Et on montre des dessins pour montrer que tous les sexes sont normaux, qu'il n'y a pas que les sexes qui sont représentés peut-être dans les magazines ou peut-être dans les films porno qui sont normaux. Parce que sinon, on va se comparer avec un modèle qui n'est pas la réalité et on va se sentir anormal. Moi, la femme que j'ai vue il y a 3 jours m'a dit que ce qui me fait le plus mal, ce qui me reste en tête, c'est une voisine qui ne vient pas de la même ethnie que moi, une ethnie qui n'existe pas, et qui m'a dit, de toute façon, vous êtes des femmes incomplètes. Et elle tourne cette phrase en boucle. Et on voit bien que ça peut faire très mal. Nos mots à nous peuvent faire beaucoup de mal aussi. Et donc l'annonce de l'excision, les mots qu'on utilise pour en parler sont vraiment fondamentaux. Si on a l'air horrifié et qu'on la condamne à avoir une sexualité pas du tout satisfaisante tout le reste de sa vie, ça risque de la marquer très fort aussi.
On parlait de symptômes tout à l'heure, sans mettre tout le monde dans le même sac, dans le choc post-traumatique. Néanmoins, il y a des douleurs qui vont après avoir un retentissement physique. Est-ce que vous êtes justement amené à prendre en charge, on va dire, des maladies du corps qui sont associées à cette mutilation sexuelle, docteur Radahatem? Est-ce qu'il y a des femmes que l'on renvoie plus communément vers telle ou telle spécialité compte tenu de la résonance physique qu'a eu cette atteinte souvent dans l'enfance?
Ça dépend de l'évaluation qu'on en fait. Certaines femmes vont bien, presque bien sur le plan psychologique et ont une plainte très orientée vers leur sexualité. Donc dans ces cas-là, on va commencer par le sexologue. D'autres femmes n'en sont pas du tout à la sexualité, mais sont très détruites psychologiquement. Et là, ça va commencer par la psychologue. Et puis parfois, il y a des raisons anatomiques. Une femme qui est infibulée, par exemple, et qui n'arrive pas à consommer son mariage, on va peut-être commencer par la désinfibuler. Et puis voir ensuite comment est sa sexualité, parce que parfois c'est impossible d'en parler avec elle ne sait même pas ce que c'est. Souvent il y a la barrière de la langue, c'est difficile d'avoir une conversation très subtile sur la sexualité, en arabe, en anglais. Donc on peut y aller pas à pas.
Docteur Stéphane Bounan, justement, la réparation, vous disiez tout à l'heure, ne dépend pas forcément de la taille de la lésion, ça va être au cas par pour chaque femme. Comment est-ce qu'on fait pour verbaliser avec une femme avant l'opération, pour lui décrire exactement ce qu'on va lui faire ?
Assez simplement, je le fais dans les suites de l'examen qui permet d'expliquer à la patiente le type de lésion. Personnellement, la façon dont je procède, et je crois que beaucoup de mes collègues font de même, c'est de, lors de cet examen gynécologique, et somme toute comme un examen gynécologique classique, je vais mettre entre les mains de la patiente un miroir, dirigé vers son sexe, de manière à ce qu'au fur et à mesure que je lui montre, elle puisse voir la structure. Alors pour certaines, c'est la première fois qu'elles regardent leur sexe d'aussi près. Il y en a même pour certaines qui sont hésitantes à prendre le miroir. Et j'insiste un petit peu en disant, vous n'êtes pas obligé, mais ça sera mieux pour vous que vous puissiez voir ce dont je vous parle. On peut s'appuyer sur des photos pour leur montrer grossièrement les parties qu'on s'attend à retrouver sur un corps intègre. Et après, elle va déjà d'elle-même repérer les zones qui sont différentes. Alors bien entendu, ça serait complètement faux de dire vous n'avez pas de clitoris, hein, car le clitoris ça fait 11 cm et sa plus grande partie est interne. Donc même quand on dit on a enlevé le clitoris, en réalité c'est vraiment un abus de langage et une erreur médicale.
On a coupé un morceau.
On a coupé le bout, on a coupé le gland clitoridien. Mais de toute façon, si on a coupé trop profond, ce qui s'en est suivi c'est le décès de la petite fille. Hein, on a énormément de patientes qui nous décrivent la mort d'une fille, la mort d'une sœur. On peut imaginer que c'est ça qui s'est passé, c'est que la lame de l'exciseuse a été tellement profonde que ça a entraîné une hémorragie qui a été fatale. Donc, c'est ce que je leur dis souvent, c'est si vous êtes devant moi aujourd'hui, c'est que probablement on va percevoir la partie du clitoris qui vous reste encore dans votre corps. Ça déjà, ça les rassure énormément de savoir qu'on n'a pas tout enlevé. Et après, souvent ces patientes ont déjà elles-mêmes identifié au cours de leur vie la partie de leur anatomie qui correspond à leur clitoris, c'est-à-dire ce qui leur reste. Mais alors évidemment c'est beaucoup plus compliqué chez ces patientes que sur une patiente qui a un corps intègre, où là il est visible déjà et il est beaucoup plus superficiel. Là ça demande un travail de connaissance et il arrive qu'on ait des patientes qui n'avaient pas repéré cette zone. Alors on va leur montrer. Voilà, on va leur montrer, on va dire est-ce que vous voyez qu'à cet endroit-là vous avez une boule au fond ? Alors voilà, est-ce que vous l'avez déjà senti ou jamais ? La majorité savent très bien de quoi on parle, mais certaines vont dire ah bon, alors cette boule c'est ça mon clitoris, c'est pas juste un défect, c'est pas une partie de la cicatrice.
Et c'est plutôt une découverte, on va dire heureuse, ou c'est encore quelque chose qui est dans la douleur ?
Non, ça c'est plutôt heureux. Ça, c'est une femme qui pense qu'elle n'avait plus de clitoris et qu'elle comprend qu'en fin de compte, on a coupé que le bout. Et ça me permet d'enchaîner en leur disant, l'intervention qu'on peut vous proposer et qui peut-être vous conviendra, ça serait d'aller chercher cette partie du clitoris qui est complètement enfouie et de venir la repositionner à sa place normale, à la place que ce clitoris n'aurait jamais dû quitter. Après, tout dépend de la plainte de la patiente, mais on peut aussi enchaîner sur le fait que si sa plainte, par exemple, c'est une question de perception et de sensation sexuelle, elle va aisément comprendre que si son clitoris il est de nouveau au bon endroit et superficiel, elle va mieux ressentir les choses que si son clitoris est tout à fait en haut et sous une couche épaisse de cicatrices.
Il y a un suivi post-opératoire, il y a un suivi à long terme sur le retour de la fonction sexuelle, du plaisir sexuel. Quel retour vous font ces femmes ? J'aimerais bien sur ce sujet faire un tour de table. Encore une fois, on a dit cette chirurgie, ce n'est qu'un volet de la prise en charge. Malgré tout, les femmes qui font le parcours, ça veut dire qu'avant elles ont travaillé avec les psychologues, elles ont vraiment fait un parcours, un cheminement spécifique. Qu'est-ce qu'elles disent, Mathilde Delespine, par exemple, des femmes que vous rencontrez qui ont été opérées, qui viennent par exemple donner le jour à un bébé, qui vont dire comment c'était avant, comment c'est après ?
Souvent, elles viennent me voir parce qu'elles sont enceintes. On a tous eu un sourire quand vous avez posé la question. Je pense qu'on a tous en tête des témoignages très positifs. Je me souviens d'une femme en groupe de parole qui avait fait rire toutes les autres en disant « Depuis l'opération, rien que le fait d'enfiler mon slip me provoque des sensations agréables. Quand je regarde un film où il y a deux personnes qui s'embrassent, là, j'ai carrément des petits fourmillements dans le bas du ventre. » Voilà, donc ça peut être soit des descriptions de sensations très positives, soit plutôt un changement de posture. Une autre nous avait dit qu'elle avait passé son permis moto après l'opération et c'était un rêve qu'elle avait depuis toujours mais qu'elle avait jamais osé faire. Donc c'est vraiment une posture différente où des personnes me disent j'ai l'impression que ça se voit sur mon visage parce que tout le monde me dit que j'étais chez le coiffeur, que je m'habille autrement, alors j'ai pas du tout changé ma garde-robe, donc peut-être c'est ma posture, je me relève un peu, mon buste est plus bombé. Voilà, donc ça va être ce genre de témoignage.
Mais ça veut dire que dans leur esprit, à la limite, elles prennent plus le bénéfice de la chirurgie, peut-être de tout ce qui a été fait à côté, qui va être de l'ordre du psychologique, où il y y a eu un gros travail. Et finalement, on va voir la partie matérialisée de la prise en charge et pas forcément tout ce qui a entouré autour, Sandrine Edwards.
Mais en fait, c'est comme si elles avaient été castrées. C'est-à-dire qu'on a vraiment, en fait, on les enferme dans un schéma. En leur coupant le clitoris, on leur dit, tu seras une femme sage, obéissante, et tu ne broncheras pas. Et là, on leur redonne un clitoris, on leur redonne une place. Il y a vraiment, c'est une révolution. Enfin, effectivement, on a souri. Enfin, j'ai vu une jeune femme la semaine dernière, juste avant qu'elle se fasse opérer, et elle me dit, oh, mais ça va se voir sur mon visage.
C'est la cure de beauté.
Et c'est merveilleux de voir effectivement comment ces femmes se réemparent de leur vie et effectivement, elles ont plus du tout le même positionnement, même dans leur manière de s'asseoir, d'être. Elles ont vraiment regagné en tout. C'est très beau d'assister à ces changements.
Docteur Stéphane Boudin.
Oui, d'ailleurs, dans la chirurgie du clitoris, la transposition du clitoris, quand on cherche à l'évaluer d'un point de vue scientifique, c'est très difficile. Parce que les résultats, dans les grandes études internationales, sont très, très positifs. C'est-à-dire que la satisfaction des patientes et l'accès au plaisir après l'intervention est vraiment exceptionnel. Mais avec un bémol, c'est que toutes ces patientes ont souvent bénéficié d'un accompagnement psychologique, sexologique, de reprise de confiance en elles. Enfin, ce qui est sûr, c'est qu'au final, l'ensemble de cet accompagnement fait énormément de bien, mais la part de la chirurgie, ou de la sexologie, ou de la psychologie, c'est très difficile de savoir quelle est la part de chaque intervenant dans le bien-être global.
Alors, une action sanitaire globale, on l'a bien compris. Et puis, un travail ici à la Maison des Femmes de Saint-Denis, où s'est déplacée aujourd'hui Priorité Santé, un travail en termes de droit, avec, dans un lieu unique, docteur Ada Hatem, la possibilité d'engager une procédure. Ça, c'est quelque chose auquel vous teniez particulièrement, parce que, évidemment, quand on a subi des choses, on a subi des violences, quand on est en situation de vulnérabilité, c'est pas toujours facile d'aller dans un commissariat, d'aller parler, de se dévoiler. Là, ce sont les acteurs, justement, qui viennent à la compte de ces femmes, comment ça se passe ?
Ça se passe extrêmement bien, pour deux raisons. La première, c'est que les femmes ont confiance en nous et elles se disent que puisque ces policiers sont là, ils font presque partie de l'équipe et c'est dans leur démarche globale, elles ont confiance pour aller porter plainte. Et l'autre aspect que je n'avais pas anticipé, c'est que les policiers se disent, puisque ces femmes sont là et qu'elles sont prises en charge par une équipe, c'est que ce sont de vraies victimes. Je vais donc pouvoir m'intéresser à leur cas sans arrière-pensée, sans bémol, sans les réticences habituelles. Et donc la conjonction de ces deux choses fait que la prise de plainte a un impact très fort ici.
Et elles sont incitées à parler, est-ce que beaucoup d'entre elles, quand elles arrivent par exemple en consultation, expriment le souhait d'aller vers justement vers une plainte, ou c'est quelque chose qui est encore vraiment retenu, docteur Ada Hatem, parce que elles veulent le mieux pour elles-mêmes, mais elles n'osent pas encore aller parfois contre ceux qui les ont atteints.
C'est extrêmement compliqué. D'abord, très souvent, ça a été fait au pays. Donc, porter plainte contre sa grand-mère au village n'a pas grand sens. Elles pourraient porter plainte contre leurs parents, qui ne les ont pas protégés ou qui les ont accompagnés. Mais là encore, c'est une violence familiale extrêmement lourde. Elles n'ont pas tellement envie d'aller vers là. Sauf certaines qui auraient une démarche très militante.
Donc c'est plus pour les violences conjugales.
La plainte est plus souvent pour les violences conjugales. Après, nous, si nous dépistons dans notre examen une mineure qui a été excisée, nous devons mettre le système en branle. Mais c'est extrêmement différent d'une patiente qui vient pour une prise en charge. En général, elle est majeure.
Alors, on approche du terme de notre échange, hein, à l'occasion de cette émission, prise en charge pluridisciplinaire. Le gouvernement, en particulier le secrétariat d'État chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, porte un plan national d'action visant à éradiquer les mutilations sexuelles féminines, sensibiliser, améliorer la santé des femmes victimes. Un petit tour de table, si vous voulez bien, pour conclure sur, d'un côté, les ambitions. Petit fascicule qui a été imprimé avec toutes ces volontés. Vous êtes cité à titre d'exemple, d'ailleurs, dans ce plan. Entre l'envie et les moyens, parce que il y a une page qui manque, hein, dans ce document, on va dire, c'est la budgétisation, les investissements nécessaires, parce que on l'a vu ici, quand on fait intervenir des médecins, des praticiens, quand il faut des locaux, quand il faut des associatifs, tout ça réuni pour travailler pour les femmes, ça demande du temps, ça demande de la compétence, de l'expertise. Donc tour de table pour savoir ce que vous pensez de ce plan, Mathilde Lespine.
Ben, ce plan est très positif, mais effectivement, sur le plan des financements, il faudrait pas que ça vienne en contradiction avec ce qui est mis en place. Enfin, il y a les structures spécialisées comme la nôtre qui ont besoin de financement pour être créées et être pérennisées. Et puis, il y a le droit commun. Il y a les services de PMI, protection maternelle infantile, qui nous disent qu'ils peuvent plus voir les enfants jusqu'à l'âge de 6 ans, parce qu'ils ont plus assez de moyens. Donc, plus que pour les enfants jusqu'à 5 ans, voire parfois jusqu'à 3 ans. Ben, là, on perd de la prévention, notamment sur les mutilations sexuelles féminines et les violences en général. Voilà, il y a les professionnels des hôpitaux qui le disent haut et fort, qui n'arrivent plus à travailler dans des bonnes conditions. Les services de police, de justice sont également débordés, notamment en termes de protection de l'enfance. Et donc là, on voit tout de suite les contradictions. C'est vraiment important de sacraliser ces services qui sont là pour protéger les mineurs et leurs parents qui sont protecteurs et de venir renforcer les structures spécialisées comme les nôtres.
Docteur Stéphane Bounan, sur justement l'écart, parfois le fossé entre les annonces et les faits concrets, particulièrement pour la lutte contre les mutilations sexuelles.
En tant que chef de service, j'ai découvert le mode de fonctionnement et de rémunération des soins qu'on fait, parce que chaque service est un peu comme une entreprise en fait, hein, avec des dépenses et des recettes, et on doit faire au mieux pour soigner les gens dans ce cadre. Et le problème, c'est que toutes les mesures de prévention, toutes les mesures d'éducation thérapeutique,
ce ne sont pas des actes,
et ça ne rapporte pas d'argent. Donc c'est pas que la direction est contre, hein. On a des gens formidables qui nous soutiennent dans nos projets et tout ça, mais eux, à la fin de l'année, il faut qu'ils rendent un bilan comptable avec des dépenses et des entrées. Donc même s'ils soutiennent le projet, tous ces actes de prévention, d'accompagnement ne sont pas rémunérés par la sécurité sociale. Et ben le directeur, il va me dire mais je ne peux pas embaucher ce professionnel supplémentaire car il y aura rien en face pour le financer. Donc il y a peut-être des idées de financement ou des nouveaux parcours de soins sur lesquels on devrait travailler pour ces femmes.
La Maison des Femmes qui est citée à titre d'exemple pour lutter contre l'excision. Sandrine Edouard, ce plan anti-excision, vous en pensez quoi?
Je vous avoue que je ne l'ai pas regardé en détail, mais je pense effectivement, comme mes collègues, que les missions de prévention sont indispensables et incontournables, et c'est important, quels que soient les gouvernements, ça serait bien qu'ils en prennent acte.
Docteur Rada Hatem, votre structure va s'étendre au niveau de l'espace, hein, vous allez avoir plus de lieux, parce qu'aujourd'hui quand on se promène dans cette Maison des Femmes, tout est à portée de main, les espaces sont réduits, on sent beaucoup d'intimité, beaucoup de lumière, de couleurs, mais un petit peu à l'étroit malgré tout. Vous auriez besoin de quoi pour mieux travailler demain?
Du double de la surface déjà, d'un peu plus de ressources humaines. Et puis après, il faut connaître nos limites. Nous, petite maison des femmes, nous n'allons pas révolutionner la prise en charge des femmes victimes d'excision. Un plan comme celui de Madame Schiappa est ambitieux en ce sens qu'il annonce la couleur, qu'il met le projecteur sur le sujet, ce qui n'était pas le cas jusqu'ici. Après, il y a des choses qui pourraient être des vœux pieux parce que tout n'est pas dans nos mains. Il faut aussi agir avec les diasporas. Il faut aussi agir sur le terrain. Parce que nous, on répare, mais il faudrait mieux que ça s'arrête en amont. Et ça, la France a peut-être un rôle différent à jouer, qu'elle doit jouer. Pour finir, ce que je trouve intéressant dans ce plan, c'est quand même l'articulation avec l'éducation nationale, qui a un rôle important à jouer, et tout ce travail interministériel qui est fondamental. Après, il manque les sous.
Travail de sensibilisation et d'information. On vous remercie chaleureusement de nous avoir accueillis ici, d'avoir accueilli l'équipe de Priorité Santé dans l'enceinte de cette Maison des Femmes de Saint-Denis. Illustration concrète de ce qui peut être fait au-delà des déclarations et de la communication pour aider les femmes à améliorer leur prise en charge au niveau sanitaire et social. Merci à vous, Mathilde Lespine, sage-femme ici à Saint-Denis, coordinatrice pour l'unité de soins dédiée aux femmes victimes de violences. Sandrine Edwards, psychologue dans le service gynécologie. Docteur Stéphane Bounan, chef de service de gynécologie obstétrique à l'hôpital de La Fontaine. Et vous, docteur Rada Hatem, gynécologue obstétricienne, médecin-chef ici à la Maison des Femmes. Merci. Et demain, dans Priorité Santé, nous allons parler de l'obésité infantile. On se retrouve dès 9h10 dans Universel.
C'était Priorité Santé avec Sunwa Assurance, qui garantit à tous les parents du monde la scolarité de leurs enfants, quoi qu'il arrive. Rendez-vous sur monbonprofil.com. Sunwa Assurance, notre métier, l'assurance.